France Culture.
Le journal Julie Paco.
Bonjour à tous. Déjà 2 semaines de guerre au Moyen-Orient et la menace d'un choc pétrolier qui s'accentue. Après les frappes américaines sur l'île iranienne de Karg la nuit dernière, cœur stratégique pour l'exportation du pétrole brut iranien. Un pétrole iranien acheté en grande partie par la Chine, soutien de Téhéran, mais qui reste dans une position attentiste depuis le début du conflit. Alors comment expliquer la prudence de Pékin? Nous poserons la question à notre invité, la politologue spécialiste de la Chine, Stéphanie Balm, directrice du CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Enfin, 26 personnes mises en examen, dont un avocat écroué. Le procureur de Marseille a dévoilé ce matin les détails de l'opération inédite contre la DZ Mafia menée en début de semaine. Un coup de filet qui témoigne d'une féminisation du narco-banditisme, dit-il. Se dirige-t-on vers un choc pétrolier majeur après les derniers événements la nuit dernière au Moyen-Orient? Alors que la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz est toujours bloquée par l'Iran, faisant flamber le cours mondial du brut, Téhéran promet aujourd'hui de réduire en cendres l'industrie pétrolière liée aux États-Unis au Moyen-Orient si Washington s'en prend à ses infrastructures stratégiques sur l'île de Karg, cet îlot de 24 km² situé à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes au nord du golfe Persique et véritable hub pétrolier de l'Iran dans le Golfe. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Julie.
Or justement, ce point névralgique, Virginie, a été ciblé la nuit dernière par les frappes américaines.
Oui, l'île de Karg, 6 km de long, 4 de large, abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut iranien. Un chiffre dit tout de son importance stratégique pour Téhéran. Selon une note de la banque américaine JP Morgan, c'est de là que partent 90% des exportations de brut iranien. La nuit dernière, l'endroit a donc été la cible de frappes américaines. 15 explosions entendues selon l'agence iranienne Fars, qui a aussitôt précisé que les cibles étaient militaires. Mais je cite qu'aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée. Information corroborée par Donald Trump, qui a déclaré avoir complètement détruit des cibles militaires sur l'île et prévenu. Il s'en prendra aux infrastructures pétrolières si l'Iran continue à entraver le passage dans le détroit d'Ormuz, selon le très informé média en ligne Axios, qui cite des responsables de l'administration Trump. Le gouvernement américain envisagerait même la possibilité de s'emparer de ce territoire, ce qui pourrait ensuite servir de levier de négociation. Privée de ce site stratégique, l'économie iranienne, déjà exsangue, s'effondrerait alors totalement.
Virginie Pironon, rédaction internationale de Radio France. L'Iran, qui semble avoir mis ses menaces à exécution en frappant ce matin une importante installation pétrolière aux Émirats Arabes Unis, après avoir appelé ce matin les habitants des Émirats à s'écarter des ports. La nuit dernière, c'est l'ambassade américaine à Bagdad qui a une nouvelle fois été visée par une attaque de drones. Les frappes qui se poursuivent également au Liban. Un immeuble résidentiel de la banlieue nord de Beyrouth a été touché ce matin, quelques heures après une frappe visant une équipe de santé dans le sud du Liban. Frappe qui a fait au moins 12 morts. Tout doit être fait pour empêcher que le Liban ne sombre dans le chaos, prévient Emmanuel Macron, qui tente une nouvelle fois de se poser en médiateur et appelle Israël à des discussions directes avec le Liban. Une discussion qui pourrait se tenir à Paris, propose le chef de l'État, au lendemain d'un échange avec le Premier ministre libanais. Mais en Europe, le seul dirigeant à s'opposer frontalement à l'intervention américano-israélienne s'appelle Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol qui refuse aux États-Unis l'accès aux bases militaires espagnoles, a décidé de mettre fin aux fonctions de l'ambassadrice d'Espagne en Israël cette semaine. Marie-Hélène Ballestero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Madrid pour France Culture et cette position ferme est soutenue par les Espagnols qui descendent dans les rues aujourd'hui pour manifester contre le conflit en Iran.
Oui, c'est bien ça. Et comme vous disiez, malgré les pressions de Donald Trump et sa menace de suspendre tous les échanges commerciaux entre Washington et Madrid, eh bien, Pedro Sanchez tient tête. Il défend contre vents et marées son non à la guerre en dénonçant le non-respect du droit international et en qualifiant cette guerre de dangereuse et injustifiée. Alors que pensent justement les Espagnols de ce non à la guerre? Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que cette devise n'est pas nouvelle en Espagne. Sanchez, en fait, a récupéré ce slogan qui avait été scandé pour la première fois par le socialiste Zapatero après l'invasion américaine américaine de l'Irak en 2003 face au président sortant du Parti populaire Athnar qui avait soutenu les Américains et les Britanniques en Irak. Un slogan grâce auquel Zapatero avait remporté les élections législatives en 2004. Alors, au-delà de ses convictions personnelles, Sanchez est bien conscient que les Espagnols sont contre la guerre de façon générale. Marquée par la guerre civile et par 40 ans de dictature franquiste, la société espagnole a développé un caractère anti-belliqueux prononcé, comme en témoignent les résultats du sondage publié la semaine dernière par le quotidien El País, selon lequel plus de 68% des Espagnols sont contre l'offensive israélo-américaine en Iran. Quant au mouvement anti-guerre, il s'intensifie ces derniers jours en Espagne. La plateforme Arrêtez la guerre a publié jeudi dernier un manifeste qui a été signé déjà par des milliers de citoyens, dont de nombreuses personnalités du monde de la culture, tandis que plus de 150 manifestations ont été convoquées aujourd'hui à travers le pays.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid pour France Culture. Et Pékin dans tout ça? La Chine, premier importateur mondial de pétrole et proche de l'Iran, est directement concernée par le conflit au Moyen-Orient. Alors que 13% du pétrole importé par la Chine vient d'Iran et que la moitié de ses approvisionnements en hydrocarbures transitent par le détroit d'Ormuz. Bonjour Stéphanie Balm.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste de la Chine, directrice du CERI, Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, CNRS. Alors la Chine a condamné immédiatement l'attaque israélo-américaine il y a 2 semaines, mais comment expliquer aujourd'hui la position attentiste qu'elle adopte vis-à-vis de l'Iran ?
Alors écoutez, je ne sais pas exactement si on peut la qualifier d'attentiste, mais de manière générale, Pékin condamne les interventions. La plupart du temps, elles sont américaines, donc elle condamne les interventions américaines au nom d'un principe de souveraineté et de non-ingérence. Donc c'est une stratégie, si vous voulez, qui est double. C'est celle d'une condamnation qui est verbale, mais aussi de prudence stratégique. Ce qui explique qu'au Conseil de l'ONU, le 11 mars dernier, la Chine s'est abstenue sur la résolution qui condamnait les attaques iraniennes, parce que Pékin avait estimé que le texte était déséquilibré, parce qu'il condamnait uniquement l'Iran sans mentionner les frappes, entre guillemets, initiales, ce qu'on trouve dans le texte, qui avait déclenché l'escalade. Donc c'est très significatif en fait de la diplomatie chinoise depuis Xi Jinping, avec dans sa logique en fait dite de l'initiative de la route de la soie, où l'idée c'est vraiment on n'intervient pas concrètement, on n'intervient pas militairement, on crée des alliances, et quand les pays qui font partie d'alliances sont attaqués, Pékin essaye de préserver sa relation avec les États-Unis. De très clairement indiquer qu'il n'y aura pas d'intervention militaire et en sous-main d'essayer de régler de manière diplomatique les conflits à travers des propositions de paix qui sont en général très, très vagues, pas du tout précises, parce que l'objectif absolu, c'est quand même de préserver son équilibre géoéconomique pour des raisons de marché intérieur. Vous l'avez dit, la Chine est très, très, très dépendante de ses réserves stratégiques et notamment subit de plein fouet la guerre en Iran aujourd'hui.
Oui, elle l'est subie de plein fouet, mais vous l'évoquiez, la Chine s'est préparée à un possible choc pétrolier en faisant d'importantes réserves stratégiques de pétrole notamment.
Oui, alors, les réserves stratégiques de pétrole de la Chine, il y a plusieurs estimations, mais les experts, nous, dans nos réflexions, on part du principe que les réserves pétrolières chinoises sont estimées entre 900 millions de barils, soit entre 80 et 120 jours d'importation, selon les méthodes de calcul. Après, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, le contexte stratégique, il est très clair. Un énorme pourcentage du pétrole importé par la Chine transite par ce fameux détroit d'Ormuz, qui est évidemment la zone qui est directement affectée par la guerre en ce moment. Et la Chine reste aussi le premier importateur mondial de pétrole, donc est extrêmement sensible aux chocs énergétiques. Et pour la Chine, c'est le second choc, puisque le premier, c'était celui du mois de janvier avec le Venezuela. Ce qui renforce aussi, paradoxalement, la stratégie chinoise de diversification énergétique, notamment vers l'Asie centrale, vers la Russie, mais aussi vers tous les renouvelables. Donc, en gros, ces crises rappellent l'extrême vulnérabilité énergétique de la Chine dans ce contexte, d'où l'importance de les condamner, mais aussi de préserver sa relation avec les Américains.
Oui, parce que la Chine s'est bien gardée de critiquer directement les États-Unis. C'est quoi ? C'est que cette guerre ne doit surtout pas compromettre la visite du président américain qui est prévue le 31 mars prochain à Pékin ?
Alors, en fait, de manière générale, les relations entre les États-Unis et la Chine sont à préserver, et de part et d'autre. Donald Trump est infiniment plus virulent à l'égard de l'Europe qu'il n'est à l'égard de la Chine. Moi, ce qui m'épate beaucoup, une de mes hypothèses de travail, c'est de réfléchir depuis l'arrivée de la seconde administration Trump à tous les rapprochements qui existent entre les États-Unis et la Chine. Donc il faut qu'on se prépare, nous les Européens, à deux situations. Une situation où il y a vraiment un conflit sino-américain et une situation, qui est celle qu'on observe de plus en plus, de rapprochement. Pas forcément de rapprochement stratégique, mais de rapprochement, par la gestion des tensions sur des sujets qui sont le commerce, les tarifs, les sanctions technologiques. Et la question de Taïwan. Donc, c'est moins, si vous voulez, l'attitude de la Chine. Elle ne vise pas à préserver ce fameux sommet de la fin du mois. Elle vise, de manière générale, structurellement, à préserver les relations sino-américaines et à trouver des compromis très clairs en termes de sécurité économique, tout en contestant l'ordre international dominé par les États-Unis, puisque la Chine se présente aussi comme le leader du Sud. Mais l'objectif essentiel, et on l'a bien vu, parce que ça me paraît important de dire aux auditeurs aussi, qu'on est à un moment très important de l'histoire politique chinoise, de manière générale, parce qu'on est à pratiquement 15 ans d'exercice du pouvoir par Xi Jinping, mais c'est aussi la fin de ce grand moment annuel qui est l'Assemblée nationale populaire chinoise, qui a tenu à présenter la Chine comme une puissance de stabilité face à l'instabilité stratégique américaine dans son ensemble. Or, cette stabilité en interne comme en externe, elle n'est pas du tout évidente pour la Chine.
C'est entendu. Merci beaucoup Stéphanie Balm, politologue, spécialiste de la Chine et directrice du CERI. Merci également à Louise Guérin pour la préparation de cet entretien. Et dans ce conflit au Moyen-Orient, une autre région semble passer sous les radars, le Caucase. Pourtant, la semaine dernière, deux drones iraniens ont frappé l'Azerbaïdjan. Ce dernier partage une frontière terrestre avec l'Iran, tout comme l'Arménie. Et cette attaque fait craindre une extension du conflit dans cette région, avec notamment un afflux de réfugiés iraniens. William Oncure.
Pour échapper au conflit, un certain nombre de citoyens iraniens cherchent à rejoindre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le Caucase reste pour eux, le plus souvent, une zone de transit, d'après le journaliste Vaheter Minassian.
Ce n'est pas la voie de passage la plus naturelle pour les citoyens iraniens pour passer par l'Arménie, puisque ensuite il s'agit de rejoindre d'autres pays. Ce n'est pas des gens qui veulent venir en Arménie pour s'y installer.
Reste qu'un afflux de réfugiés iraniens est un scénario envisageable pour Tigran Yegavian, chercheur à l'Institut Chrétien d'Orient.
C'est un scénario plausible, cette hypothèse d'un afflux de réfugiés iraniens à la fois en Azerbaïdjan et en Arménie. Pour mémoire, en 2024, il y a eu plusieurs milliers de réfugiés iraniens qui avaient trouvé temporairement abri en Arménie lors de la fameuse guerre des 12 jours, où Israël avait frappé durement les infrastructures iraniennes, mais ils n'étaient pas restés très longtemps, ils sont repartis.
Au début de la guerre, l'Arménie a accueilli près de 300 Iraniens. De son côté, l'Azerbaïdjan a accueilli plus de 2000 déplacés en provenance d'Iran, mais la plupart sont des ressortissants de pays tiers.
Midi 43 sur France Culture, après Octopus, du nom de ce vaste coup de filet opéré par les forces de l'ordre en début de semaine contre la DZ Mafia, organisation criminelle marseillaise, au cours duquel 42 personnes ont été simultanément interpellées par près de 900 gendarmes mobilisés dans plusieurs départements du sud de la France. Eh bien, 26 suspects ont été mis en examen, précise ce matin le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne, lors d'une conférence de presse que vous avez suivie. Chloé Geffroy, bonjour.
Bonjour Julie.
Et parmi ces 26 personnes, Chloé, 15 ont été placées en détention provisoire.
Le procureur de Marseille qui a donné davantage de détails sur le profil de ces 26 suspects. Et dans la liste, 9 sont des femmes.
C'est assez intéressant, 9 femmes. Ce que nous subodorions déjà depuis quelques années démontre une véritable féminisation également du narcotrafic. La moyenne d'âge, 28 ans. Là aussi, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas nos jeunes adolescents ou nos jeunes adultes qui sont utilisés par le réseau, souvent maltraités comme de la chair à canon. Ce sont des personnes qui ont un âge plus avancé. Et ce qui démontre qu'on arrive au cœur de la structure de la DZ Mafia.
La DZ Mafia, qui est bien une organisation marseillaise, dit Nicolas Besson. 20 suspects sont originaires de la cité phocéenne ou des Bouches-du-Rhône. Sans rentrer dans le détail des auditions, le procureur explique que certains ont reconnu tout ou une partie des faits qui leur sont reprochés. D'autres les ont farouchement niés. Parmi les 26 personnes mises en examen figure aussi un avocat soupçonné d'avoir été corrompu, permettant à un cadre détenu de la DZ Mafia de communiquer avec l'extérieur. Il a été écroué. Une vague d'interpellation qui ne met pas un terme à la procédure. Ce n'est que le début, a fait savoir Nicolas Besson.
Chloé, j'ai froid. Le temps cet après-midi restera frais, mais moins pluvieux. Des éclaircies sont attendues sur la façade atlantique entre deux averses. Et le soleil sera plus généreux sur les côtes normandes et au sud de la Garonne. Comptez 7 à 12 degrés d'est en ouest et jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé avec Alix Forgeau, Anthony Thomasson à la technique.